Dernier cours sur le relatif et la relation, pour vous soulager. Ça ne veut pas dire que vous avez compris tout, ni moi-même. N'oublions jamais ce qu'Aristote nous dit. La débilité du relatif. Donc, au point de vue de l'intelligibilité, selon le mode quantitatif, puisque nous sommes dans la recherche, ne l'oublions pas, il faut bien comprendre, nous sommes dans la recherche de ce qu'est l'être. Et nous avons découvert, inductivement, faut toujours souligner ça, inductivement, l'ousia, la substance, ce principe selon la forme de ce qui est à la racine de toutes les déterminations. L'ultime détermination est une détermination d'un caractère tout à fait particulier, puisque jusque-là, et au point de départ, la forme, c'est ce qui détermine d'une manière immanente. La première découverte de la forme distincte de la matière, c'est à partir de l'œuvre. N'oubliez jamais ça, quand il s'agit de voir des distinctions qu'on fait dans l'ordre de l'analyse au plan philosophique, il faut toujours se rappeler quel est le point de départ de cette découverte. La distinction matière et forme qui est si importante dans l'aristotélisme et dans saint Thomas. J'allais presque dire encore plus importante dans saint Thomas que dans Aristote. Je crois. À cause d'Avicenne. Historiquement, ce serait très intéressant à voir. La distinction de la matière et de la forme a une importance énorme, à tel point que des philosophes comme Gilson, qui sont surtout des historiens, il ne faut pas l'oublier, la formation de Gilson, c'est avant tout un historien. Alors les historiens ont un sens du devenir, et très souvent, ils restent à ce niveau-là. Or, au niveau du devenir, on ne peut pas nier que la distinction la plus radicale de toute la philosophie aristotélicienne, c'est la matière et la forme. Dans l'ordre du devenir, pas dans l'ordre de perfection. Dans l'ordre de perfection, c'est différent. C'est l'être en acte et l'être en puissance. Les historiens ont beaucoup de peine d'accepter cette distinction. Jamais l'oublier. Or, de notre monde d'aujourd'hui, on est tous plus historiens que métaphysiciens. C'est un fait, ça. Regardez en exégèse. On est plus historien que contemplatif. Je crois. C'est un fait, ça. L'aspect génétique, avec le point de vue psychologique, prend une importance énorme. On croit connaître un être parce qu'on connaît son aspect génétique. Non, ce qui est important, c'est de connaître ce qu'il est. Parce que je ne vous ai pas connu au berceau. C'est très regrettable. Parce que je crois, ne vous ayant pas connu au berceau, je ne vous connais pas parfaitement. Vous étiez si gentil. Au berceau. Et c'est pour ça qu'une mère croit toujours quelqu'un son enfant que n'importe qui, parce qu'elle l'a connu au berceau. Et même avant. Ce qui est important, c'est savoir ce qu'on est actuellement. C'est ça l'important. C'est très intéressant d'analyser le devenir dans la mesure où il nous éclaire sur ce que nous sommes maintenant. Mais ce qui est important, c'est ça. Connaître mon devenir. Et mettre entre parenthèses ce que je suis maintenant, mon On lit un petit livre à Rimon, on livrera à lire ici après. C'est très intéressant pour la lecture de midi. C'est la vie d'Aristote. Alors vous comprenez, le testament d'Aristote prend une importance énorme. À partir du testament d'Aristote, on infère tout le reste. C'est très intéressant. C'est pas grand-chose sur Aristote, vous savez. La vie d'Aristote, très peu de choses. Pas de photos du petit enfant. J'en avais des photos du petit enfant, ça irait. On reconstruirait tout. Ça aussi, ça joue. Nous avons des photos, nous. Quand même quelque chose d'énorme. Des photos du petit berceau. Premier regard de l'enfant. Toutes les petites photos de la petite Thérèse, vous voyez. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Nous n'avons pas ça pour la Vierge Marie. Dommage. Parce que ça devait être si charmant, si merveilleux. Je dis ça, c'est parce que c'est très important de saisir notre fond psychologique, notre fond imaginatif, notre devenir, notre milieu. Alors, comprenez bien, la première découverte de la forme, c'est la forme qui détermine, qui informe. C'est très beau de dire la forme qui informe. Qu'est-ce que c'est qu'informer? Qu'est-ce que c'est que déterminer? Et la détermination ultime, c'est la substance. Dans la ligne de la substance, de cette recherche de l'intelligence, de la racine selon la forme, ce qui est source de toutes les formes, il y en a une ultime forme. puisque la substance est principe. Sa détermination. ça, c'est pas commun à saisir. Je vous ai dit déjà plus d'une fois que dans la scolastique décadente, à partir de Suarez, hein, je parle de la scolastique décadente à partir de Suarez, c'est à partir de Suarez que le glissement se fait. Pas dans Adama. C'est avant Suarez, mais c'est ton Scott, c'est Occam, mais dans le thomisme. Dans le thomisme. Tout le monde sait que Occam, c'est pas saint Thomas. Tout le monde sait que ton Scott, ce n'est pas saint Thomas. Mais tout le monde ne sait pas que Suarez, ce n'est pas saint Thomas. Puisqu'ils se disent thomistes. Et c'est à partir de là qu'il y a la mayonnaise. Scolastique. C'est pour ça qu'il faut tout le temps remonter avant Suarez. Si on le fait pas, on n'arrivera pas. Or, dans la scolastique décadente, on ne distingue plus le tiesti et le pos. Et c'est particulièrement intéressant quand il s'agit du relatif. Parce que le frottement, c'est une manière d'exister. Alors, si c'est une manière d'exister, je comprends que cette manière d'exister a ceci de très particulier, étant donné la fragilité et la débilité du relatif, c'est qu'il ne peut pas se comprendre. Je dis bien, il ne peut pas se comprendre quantitativement, sans faire appel au fondement. Et donc, le fondement joue bien un rôle déterminant dans sa manière d'exister. Mais la détermination ultime de la relation n'est pas le fondement. C'est l'exercice des deux termes corrélatifs liés au fondement. C'est ça qu'il faut bien saisir, parce que j'avais eu l'impression qu'il y avait du flottement là-dessus. Je vois très bien ce que j'ai dit, fondement détermine, mais il faut préciser, c'est pas assez net en disant ça. Il faut bien montrer qu'il détermine de manière tout à fait particulière dans son exercice de fondement. Alors ça c'est très intéressant, parce que ça fait comprendre comment, dans toute la fémologie, où le relatif devient premier, on parle plus de substance, on dira que c'est l'exercice de la connaissance qui détermine la connaissance. Et donc, j'ai plus besoin de l'objet extrinsèque à la connaissance. C'est à l'intérieur même de ma connaissance que ma connaissance se détermine et s'objective. Et on dira thématiser. J'aime beaucoup ce terme. Thématiser, ça veut dire que à l'intérieur même de l'exercice de la connaissance, je précise ce qui détermine ma connaissance, ce qui la spécifie. Et j'arrive nécessairement à la subjectivité transcendante. Vous voyez comme quoi la relation joue un rôle capital dans ma pensée, parce qu'elle est le terrain neutre qui explique le glissement ou qui explique la confusion entre causalité efficiente et causalité formelle. Parce que le fondement ne peut se saisir que comme une manière d'exister. Dans une manière d'exister, il y a le point de vue de la causalité efficiente. Et cette manière d'exister implique une détermination. Très facilement, cette détermination va se préciser à l'intérieur de l'exercice. Et je pourrais très bien ne plus regarder que cette détermination au-delà de l'exercice. Et le tour est joué. La causalité formelle naît à partir de l'exercice. Je thématise. J'objective. À l'intérieur de l'exercice. Eh bien, je crois que c'est le fondement qui joue ce rôle. Tu vois, c'est le fondement, si je ne le vois pas avec beaucoup de rigueur, qui va permettre ce glissement, qui va permettre cette... comprenez l'amitié, tout simplement. Qu'est-ce qui détermine l'amitié? Est-ce que c'est la cognonia ou est-ce que c'est l'ami? La mise en commun, la cognonia, hein, la mise en commun. Ce qui fait que deux amis sont amis, c'est qu'ils vivent de quelque chose qui est commun entre les deux amis. Alors ce quelque chose de commun qui est entre les deux amis, oui, fonde cette relation entre deux amis. Mais c'est l'ami qui détermine. Je suis l'ami de quelqu'un. Je suis l'ami de Jacques. Je suis l'ami de Pierre. C'est ça qui est important. La mise en commun, c'est encore le vécu de l'amitié. Or, c'est pas le vécu de l'amitié qui détermine l'amitié. Ce qui détermine l'amitié, c'est l'ami. Le vécu de l'amitié, c'est très bien, c'est très bien. C'est la cave à vin. Ce qui est important, c'est de le boire. C'est l'exercice même qui donne le point de vue profond. C'est l'avoir, le vécu d'amitié. Or, dès que vous possédez l'ami, vous n'êtes plus son ami. Vous êtes son ami quand vous êtes tout relatif à lui. Et dès que vous le possédez, cave à vin. C'est votre avoir. Il y a des gens qui aiment tellement bien le vin qu'ils aiment mieux avoir les bouteilles dans leur cave que de les boire. Ils oublient que s'ils l'ont dans leur cave, c'est pour les boire. La finalité. Et dès qu'ils l'ont bu, ils l'ont plus. Appliquez ça à l'amitié. Vous verrez. Et vous comprenez par là le fondement et les termes corrélatifs. Et vous voyez tout de suite, oui, il y a quelque chose là de mystérieux, comme c'est difficile à saisir. Et c'est pourtant ça. C'est ça qu'il faut saisir. Alors le fondement, très bien. Mais je ne peux pas ramener la relation au fondement. La relation a un caractère unique, mais qui ne peut s'exercer que grâce au fondement. Et dont je détermine le caractère réaliste grâce au fondement. Et le caractère non réaliste, c'est-à-dire fabriqué par l'intelligence, par le fondement. Là, réviser sur ces petits exemples très simples, hein, parce que ça nous fait tout à fait comprendre ce que nous vivons tous les jours. La substance est immanente. Le relatif me met au-delà d'immanence. Alors, si je ne vois plus ce fondement, j'aurai la tendance de dire que le relatif est contre la substance. Et j'aurais une tendance, alors, de dire que ce n'est plus de l'être. Ou bien si je veux dire que c'est de l'être, ce sera du surêtre. C'est par le fondement que je vois le lien entre substance et relatif. Et que je vois comment l'être, dans son caractère particulier de déterminer, selon la forme, implique le relatif. Je n'étudie pas le relatif dans la philosophie de l'acte. Et pourtant, le relatif me montre que je ne peux pas rester uniquement dans cette vision de la substance. C'est le relatif qui m'oblige d'avoir sur ce qui est un regard nouveau qui sera le regard de la fin. Télos, comme dira Aristote, le regard de la fin, ce qui finalise. Et donc qui nous donne un nouveau principe. Tant que je reste au niveau du pos, je ne saisis pas de nouveaux principes. C'est pour ça que la participation ne nous donne pas un nouveau principe. Parce qu'elle reste au niveau du pos. C'est l'analyse des causes point de vue de l'acte. Et qu'est-ce qui me permet de voir que je n'épuise pas l'être par le point de vue de la forme, que l'être a quelque chose qui résiste à la forme, si j'ose dire, quelque chose qui ne peut pas être saisi par le point de vue de la substance, et uniquement par le point de vue de la substance, c'est le relatif. Et c'est à propos du relatif, justement, que on va voir que le relatif reste bien lié à la substance par le point de vue du fondement, mais que le relatif, dans son exercice de relatif, exige de me poser le problème, mais qu'est-ce que c'est que l'exercice dans l'ordre de l'être? Et c'est par là que je me poserai la question de l'être en acte. C'est pour ça que c'est si important. On verra l'être en acte l'année prochaine, on ne voit pas ça d'ici. Mais il faut comprendre que la métaphysique implique deux grandes recherches de ce qui est en tant qu'être. La substance et l'acte. Et que c'est irréductible pour mon intelligence. Parce que je n'ai pas l'intuition de l'être. Je ne peux que l'analyser. Et j'aurai ces deux grandes analyses. Celle qui se fera par mode quantitatif pour aboutir à la substance. Et celle qui se fera par mode d'exercice qui m'aboutira à l'être en acte. Et c'est cela la grande découverte d'Aristote. Tant que je n'ai pas saisi ça, je n'ai pas saisi Aristote. C'est pour ça que dire qu'Aristote reste une métaphysique de l'ousiologie, donc une métaphysique de l'ousia, sans voir qu'il y a un au-delà de la substance dans le point de vue de l'acte, c'est oublier ce qui caractérise la métaphysique d'Aristote, qui est de découvrir l'être en acte. Et ceci, on le verra, Platon oblige Aristote de poser ça. Platon oblige Aristote de découvrir l'ousia à cause des formes en soi. Et Platon oblige Aristote de découvrir l'être en acte à cause de la relation telle qu'elle est conçue chez Platon. Alors là, vous touchez les deux points ultimes de la métaphysique, de la philosophie d'Aristote. Substance, l'être en acte. Et Avicenne est resté au niveau des modes de l'acte. Et pas, il n'a pas saisi l'être en acte comme principe. C'est ça la très grosse difficulté. Il faut reconnaître que c'est très difficile de saisir l'être en acte comme principe. C'est-à-dire comme fin. La fin est un principe. C'est le principe ultime. Voilà. Un second problème important avant de quitter la relation. Jamais du réservation. On est toujours présent. La relation reste toujours là, présente. Comme la substance. Comme l'être en acte. Et il faut pouvoir les regarder au microscope métaphysique. Les regarder au microscope métaphysique, c'est justement aller jusqu'au bout de l'analyse. Et comprendre dès que le pose s'impose, le comment s'impose. Ça stoppe l'analyse. Je n'analyse plus, je m'arrête. Alors, un autre problème, c'est le problème que pose Thomas d'Aquin. N'oublions jamais, parce que ça, je crois que c'est capital aussi, que la somme théologique biologique et non pas métaphysique. C'était la grande erreur de Suarez. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est la grande erreur de Suarez. Et avec lui, tout le thomisme qui suit, presque tous, presque tous. Heidegger a dénoncé ce thomisme en montrant que cette métaphysique. Alors, il ne connaît pas saint Thomas. Alors, il croit que le thomisme, c'est Suarez. C'est tous les équivoques dans Heidegger. Parce qu'il ne connaît pas Thomas d'Aquin. Alors, Thomas d'Aquin est avant le thomisme. C'est pour ça qu'il est un saint. Il est avant le thomisme. Il est la source. Cacher un saint dans son intelligence, c'est-à-dire qu'il va jusqu'au bout de la limpidité de son regard. Bien, saint Thomas, pour réfléchir théologiquement sur la très sainte Trinité, nous montre comment il faut distinguer dans la relation le ad et le in. Le ad vers le in, l'immanence. Le fondement est du côté du in. Et le ad, c'est l'exercice terme corrélatif. Saint Thomas a tout à fait raison de faire cette distinction-là. Il montre que si j'attribue à Dieu la relation, il ne s'agit pas d'attribuer à Dieu le fondement. Il s'agit d'attribuer à Dieu uniquement ce qu'il y a de tout à fait ultime. Le ad. Cette distinction, saint Thomas l'a fait en théologien. Il montre qu'en attribuant à Dieu la relation, puisque tout ce qui est en Dieu est substantiel, il n'y a pas d'accident en Dieu. Cette ad va donc subsister en Dieu. J'aurai donc quelque chose d'assez curieux. Comment en Dieu le relatif et la substance s'embrassent? Comment en Dieu la relation devient substantielle? Et ça ne peut pas être autrement. Absolument pas dire qu'en Dieu la relation est prédicamentale, accidentelle. Non, la relation est substance et elle existe, elle est substance. Le Père est Père dans tout son être de Père et dans tout son être de Dieu. Et le Fils est Fils dans tout son être de Fils. Ad substantiel. Faut essayer de le penser au plan théologique. Hein. Vous ne pouvez pas le penser en dehors de la théologie. Donc, quand je pense avec saint Thomas cette distinction de le in et le ad, et que j'applique à la personne divine le ad, cette pensée est portée par le jugement d'existence de la foi. Je suis donc dans l'ordre du pouce. Toute la théologie est dans l'ordre du pouce. Saint Thomas le dit. Je recherche le comment de Dieu et non pas ce qu'est Dieu, puisque je n'ai pas encore la vision béatifique. Je suis en attente de la vision béatifique. La théologie, c'est une attente. Et on peut attendre longtemps, quelquefois, avant que la porte s'ouvre. Dieu téléphone. Alors, c'est. Il y a un retardement. On attend. On attend sur la terre. Quelquefois, ça va très vite. Il y a des voleurs du paradis. On ne sait pas pourquoi. Puis, il y en a qui restent très vieux sur terre. Et dans le monde d'aujourd'hui, puisque l'Église est vieille. Elle est vieille, vous comprenez dans quel sens, je veux dire, dans son personnel, comme dirait Maritain. XXe siècle et de la fin du XXe siècle. Et ceci grâce à l'art médical. L'art médical définit selon le chrétien. Il fait que le chrétien attend plus longtemps pour être guéri. Et ça, c'est l'efficacité de l'art médical. Il vous fait attendre plus longtemps avant d'entrer dans le ciel. Donc, il exige de vous une patience plus grande. Tout ça, c'est de l'ordre du pouce. C'est très, très important de saisir ça. On l'oublie, ça te m'a dit explicitement au début de la somme. Donc, je ne saisis pas une nouvelle connaissance et une saisie de la relation. Le TST, ce qu'est la relation, n'est en rien saisi de plus qu'en métaphysique. C'est de l'ordre du pose, du comment. Très important, toutes les conclusions théologiques de saint Thomas sont dans l'ordre du pose et non pas du TST. Toutes les confusions au niveau des thomistes viennent là. C'est qu'on reste au niveau, on transforme le pose en TST et on croit que les conclusions nous donnent un nouveau principe. Mais non, c'est pas un nouveau principe. Le théologien utilise la métaphysique. Le théologien ne fait pas une nouvelle métaphysique. Autrement, il serait hegelien. Erreur de Hegel. Ça se joue entre le TST et le pose. C'est extraordinaire. Si je dis que la relation subsistante, qui est un pose divin, un pose pour le croyant, une manière d'être, pour le croyant, et une nouvelle compréhension de la relation, une nouvelle saisie de la relation, alors je dis que dans saint Thomas, il y a une nouvelle métaphysique. Parce qu'il y a un nouveau principe. Et je fais de la relation un principe. C'est extraordinaire, ça. Vous voyez la débilité de cette métaphysique. Puisque le relatif est quelque chose de tout à fait relatif, qui est toujours second. Et je fais du relatif qui est second, quelque chose de premier. Je dis ça, c'est parce que j'ai vu, j'ai entendu quelqu'un qui était un bon dominicain, qui disait que grâce à la très sainte Trinité, on a une nouvelle métaphysique de la relation. Mais non, il n'y a pas une nouvelle métaphysique de la relation. On utilise la métaphysique de la relation en terre chrétienne dans le mystère de la très sainte Trinité. Et je transpose la relation, le til, ce qu'est la relation, l'ad, dans ce qu'il y a de plus précis. J'utilise ça pour essayer de montrer que ce n'est pas contradictoire d'être absolument simple et d'être trois. Et que la distinction des personnes n'ajoute rien à ce qu'est Dieu, à sa simplicité. La distinction des personnes ne brise pas la simplicité. Au contraire, elle m'oblige d'avoir un regard beaucoup plus profond sur la simplicité de Dieu. Mais quand saint Thomas parle de relation subsistante, il ne parle plus d'un principe nouveau, mais tout simplement d'une manière d'être. C'est très important de comprendre ça. De cette manière d'être, puis-je saisir un nouveau principe ou une nouvelle intelligibilité du relatif, puisque mon intelligence progresse toujours du TST au pose. qui me fait dire que je suis en présence d'une relation subsistante. C'est la foi, et seulement la foi. Et non pas ma métaphysique, et non pas mon intelligibilité que je peux avoir de Dieu. Or, si c'est la foi, c'est dans ce jugement d'existence où je dis qu'en Dieu, il y a trois personnes. Ce jugement d'existence, il est dans la tête.